Je vous regarde parce que je veux lire dans vos yeux ce qu'il y a. De la curiosité, de l'amour, je ne sais pas, j'espère. Oui, c'est vrai, Amish, tu as bien fait d'intervenir. L'Église est militante. Elle a un combat à mener, elle est militante. Mais en même temps, comme ça a été dit bien des fois, elle est dans la main du Père. Elle est dans les lieux célestes, assise en Jésus-Christ. Nul ne les ravira de la main de mon Père. Et ces deux vérités doivent être menées comme les rails de la voie ferrée de Père. Combattre et être en sécurité. Amen. Il y a des versets qui sont faciles à comprendre, mais pas faciles à réaliser. Et ça, je pense que vous en connaissez beaucoup. Mais le deuxième, là, que vous avez, « Aimez-vous les uns les autres ardemment de tout votre cœur », le mot « ardemment » m'a saisi. Oui, parce qu'il y a des personnes, évidemment, aimer ardemment Lilou, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur m'en donne toujours plus. Nos enfants, nos petits-enfants. Et puis, il y a des frères et sœurs de la Réunion Maison qu'on connaît depuis longtemps, qu'on aime beaucoup. Et puis, il y a des frères et sœurs qu'on ne connaît pas du tout. J'avais prévu un petit exercice, mais il prendrait trop de temps. Mais franchement, je l'avais sur le cœur. C'est de citer un nom parmi vous et de demander à ceux qui ne connaissent pas de lever la main. Bon, on ne va pas le faire. Ça prendrait trop de temps. Mais vous seriez surpris. Anne-Laure, tu serais surprise. Parce que on ne se connaît pas vraiment et c'est difficile de s'aimer ardemment quand on ne se connaît pas. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Alors, je vous propose, pour que nous puissions nous aimer ardemment, de trouver un chemin. Et un chemin, je devrais enlever le « un » et mettre « le chemin ». Et le chemin, vous savez qui c'est. C'est le Seigneur Jésus. Je pense que si nous nous approchons tous ensemble du Seigneur Jésus, eh bien, nous aurons la possibilité d'aimer et d'aimer toujours plus. L'apôtre disait, vous vous aimez, mais aimez-vous davantage. Je ne sais plus où c'est, mais c'est quelque part. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Et c'est ce que je pense que nous allons essayer de faire aujourd'hui dans cette prédication. Alors, je reviens en arrière, et il y avait aussi d'autres versets. Ils sont très beaux, je ne fais que les lire. Mais ça nous prépare. Quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier, la source. La source, c'est Christ. C'est son amour. Je vais lire là, c'est plus facile. Et le deuxième verset, c'est « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints. » Tous les saints, c'est vous et nous. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc on voit dans ce verset que pour pouvoir aimer ardemment avec tous les saints, il faut que nos regards, nos cœurs, notre affection soient d'abord sur le Seigneur Jésus. Et ça a été dit merveilleusement bien par tous ces chants choisis par Marie que nous avons chantés de tout notre cœur. Alors, je sais que vous vous posez la question, tous, mais pourquoi a-t-il téléchargé une roue ? Qu'est-ce que c'est que cette roue sur les deux diapos ? Cette roue, c'est une parabole. Cette roue, c'est une parabole du témoignage de l'Église sur cette terre. Et j'ai même un petit laser. Vous voyez là ? Ici, vous avez le moyeu de la roue. Et sa image, le Seigneur Jésus, qui est au centre. Et puis, vous avez les rayons, les barreaux là. Ça, c'est chacun de nous. Alors évidemment, dans la roue de l'église du CMLK, il y en a beaucoup plus que sur ma roue, hein, bien sûr. Et puis, vous avez le cercle, là, du bois bien solide, cerclé de fer, pour permettre le mouvement. Alors la déduction, elle est très simple de ma parabole. Plus nous nous rapprochons du centre, les uns et les autres, et plus nous sommes près les uns des autres. Bon, c'est une vérité de la palisse peut-être, mais ça a une incidence spirituelle très importante. C'est-à-dire que si nous nous approchons les uns et les autres de tout notre cœur du Seigneur Jésus, et s'il brûle dans nos cœurs, nous serons inéluctablement proches les uns des autres, et du coup, le mot « ardemment » va commencer à prendre du poids. Inversement, tiens, je vais prendre Gérard, tu me permets ton prénom, on va prendre le tien et le mien. Alors ici, vous avez Gérard, et ici, vous avez André. Plus Gérard et André vont s'approcher du Seigneur, et plus ils seront en communion l'un avec l'autre. Et on peut faire ça avec chacun de nous. Inversement, si André il est là, et si Gérard il est là, nous serons, on ne sera pas fâchés, jamais on sera fâchés avec Gérard. Mais on ne sera pas une communion ardente telle que le Seigneur nous demande d'avoir. Et puis ce cercle-là, c'est l'alliance de la grâce. Et l'alliance de la grâce, c'est une alliance dans laquelle nous sommes rentrés par la foi. Et le Seigneur a fait de nous son Église à l'intérieur du cercle. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc voilà ma petite parabole qui va nous aider à rentrer dans un chapitre de la Bible que nous n'avons pas l'habitude de lire, qui est dans le Cantique des Cantiques. Et j'ai voulu cette petite introduction, un peu longue peut-être, pour pouvoir nous préparer à cette lecture. Donc approchons-nous du Seigneur, désirons son amour au plus profond de nos cœurs, et l'Église sera bénie. Alors, on va découvrir le Cantique des Cantiques avant de lire le chapitre. C'est un peu long, mais il faut de la préparation. Il faut des préliminaires. Vous savez ce que c'est, des préliminaires? Le Cantique des Cantiques est un livre biblique inspiré par le Saint-Esprit. On le sait théologiquement, mais il faut en être sûr quand on ouvre notre Bible sur le Cantique des Cantiques. En fait, je ne sais pas qui a précédé l'autre, si c'est Salomon ou si c'est le Saint-Esprit, je ne sais pas. Mais quand Salomon a eu l'idée d'écrire un poème sur sa relation avec la Sulamite, son épouse, qu'il aimait tendrement, le Saint-Esprit, qui connaît le présent, le passé, le futur, « Je vais me saisir de cet amour de Salomon et de la Sulamite pour qu'il y ait dans la parole de Dieu un poème qui parle de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de Dieu pour les chrétiens et pour chacun de nous individuellement. » Alors c'est un poème d'amour, voilà. Mais d'abord, il a été écrit pour les Juifs. Il a été écrit, puisque c'est dans l'Ancien Testament, pour les Juifs. Alors les rabbins, qu'est-ce qu'ils font? Depuis toujours. À Pâques, ils lisent le Cantique des Cantiques. Il rappelle l'amour de Dieu pour son peuple. Et la Sulamite, c'est le peuple d'Israël. Et Salomon, c'est Dieu, dans leur analogie. Il rappelle à Pâques que Dieu, en tant que mari, on va dire ça comme ça, a aimé une épouse qui s'appelait le peuple d'Israël, l'a sortie de l'esclavage et l'a fait rentrer dans une relation d'amour avec lui. Les pères de l'Église, ben ils ont dit oui, c'est vrai ce que disent les rabbins. Mais nous, nous allons y rajouter quelque chose de plus. Nous allons dire que Salomon, c'est Dieu, mais la Sulamite, c'est l'Église. C'est vrai pour Israël, c'est vrai pour l'Église. Et puis nous en rajoutons encore quelque chose de plus, c'est chaque brebis, chaque barreau de la roue qui est aimé de Dieu. La Sulamite. Alors, du coup, ça éclaire notre lecture du Cantique des Cantiques. Bon, après, il y a un mot un peu savant, là, qui s'appelle l'herméneutique. Alors, ceux qui étudient la Bible, ils savent que l'herméneutique, c'est la façon dont nous interprétons la Bible. Alors, on peut l'interpréter d'une manière littérale et d'une manière allégorique. Et le Cantique des Cantiques, c'est essentiellement allégorique. Tout à l'heure, nous allons lire un verset qui dit « Que tu es belle, ma bien-aimée, tes yeux sont des colombes. Vous n'avez jamais vu des oiseaux sortir des orbites de vos frères et sœurs. » Littéralement, c'est ça. Donc, forcément, il faut prendre ça d'une manière allégorique et le comprendre. Tiens, qu'est-ce que signifie la colombe ? Et nous allons le voir tout à l'heure. Comment comparer aussi le Cantique des Cantiques à d'autres livres de la Bible ? Tout à l'heure, notre sœur a cité, en l'arrangeant par rapport à notre Église, un verset de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour... Alors, si vous comparez, et les deux livres sont de Salomon, si vous comparez ces deux livres, il y en a un qui est assez tristouné et l'autre qui est exaltant. L'Ecclésiaste, c'est « Sur la terre, j'ai beau regarder partout, tout est décevant, tout est triste, tout est vanité des vanités et poursuite du vent. » Mais si vous regardez le Cantique des Cantiques, c'est « Seigneur, je suis émerveillé par ton amour et je veux que tu m'embrasses encore et toujours. » Vous voyez, ce n'est pas la même chose. On peut aussi comparer le Cantique des Cantiques au prophète Osée. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le prophète Osée, mais le prophète Osée, c'est un couple, comme le Cantique des Cantiques. Ce couple, il est formé de la même manière. C'est Dieu et son peuple. Mais alors d'une manière très, très triste, parce que dans le livre d'Osée, Dieu est trompé par sa femme. Je le dis littéralement. Il appelle son peuple d'Israël « ma femme » et il lui demande de l'appeler lui Dieu, mon mari. Et oui, Israël s'est tourné vers d'autres dieux et a trompé Dieu. Et tout au long de ces 14 chapitres, il y a cet amour de Dieu qui est jaloux, de la bonne jalousie, et qui dit « Oh mon peuple, tu m'as abandonné, reviens à moi. » Comme un époux ou une épouse, dans l'autre sens, qui pourrait dire à son conjoint « Reviens, je t'aime. » Donc, dans les deux livres, nous pouvons comparer Dieu qui prend la place d'un mari et son peuple, une épouse. Pas souvent l'habitude de parler de ça. Et enfin, la dernière phrase, les citations d'amour physique, parce qu'il y a beaucoup de citations d'amour physique dans le Cantique des Cantiques, des baisers, des caresses, et d'autres scènes peut-être plus ou moins érotiques les unes que les autres, sont des portes d'entrée. Il faut le voir comme ça quand vous lisez le Cantique des Cantiques. Bien sûr, vous vous figurez ce qui est écrit, évidemment, on n'est pas bête, mais immédiatement, nous comprenons que Dieu veut nous faire rentrer dans un mariage spirituel, dans une relation spirituelle. Et c'est comme ça qu'il faut lire le Cantique des Cantiques. Bon, là, je vous ai bien préparé à la lecture du premier chapitre du Cantique des Cantiques. Ça va ? Vous êtes avec moi ? Je ne vous ai pas perdu ? Vous n'êtes pas trop intrigué ? Alors, on y va. Alors, vers là-bas. Je suis allé trop loin. Nous lisons. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Oui, ton amour est meilleur que le vin. Tes parfums ont une odeur agréable. Ton nom même est un parfum qui se diffuse. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi derrière toi. Courons. Le roi m'a introduite dans sa chambre. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à cause de toi. Célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis charmante. Fille de Jérusalem, autant que les tentes de Kédar, que les pavillons de Salomon. Ne prêtez pas attention à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils ont fait de moi la gardienne des vignes, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Toi que mon cœur aime, révèle-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais se reposer à midi. Pourquoi en effet serais-je comme une femme voilée près des troupeaux de tes compagnons ? Ah, si tu ne le sais pas, toi, la plus belle des femmes, sors sur les traces du petit bétail et conduis tes chevreaux près des abris des bergers. C'est à une jument attelée au char du Pharaon que je te compare, mon ami. Tes joues sont charmantes, avec des bijoux. Ton cou est charmant, avec des colliers. Nous te ferons des bijoux en or, avec des points en argent. Tandis que le roi est à table, mon nard diffuse son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Il passera la nuit entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné des vignes d'Enguedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es agréable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres et nos lambris sont des cyprès. Amen. Parole de Dieu. Et il faut le dire. Cet été, j'étais sur ma chaise longue pendant la canicule, à 1000 mètres d'altitude, à l'ombre d'un arbre. J'étais très bien. Et ma Bible sur les genoux, les yeux mi-clos, je méditais sur ce premier verset. Je suis allé trop loin. Voilà. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Je comprends bien que la Sulamite désirait être aimée, mais je ne comprenais pas trop où le Seigneur voulait en venir avec moi. Je lisais ma Bible et je voulais comprendre. Et j'ai entendu sortir de ce verset une petite voix qui me parlait et qui me disait « André, c'est quand la dernière fois que tu m'as demandé de t'embrasser ?» Je suis resté silencieux un moment. Je dis « Mais Seigneur, je ne suis pas habitué à ce genre de langage avec toi. » Qu'est-ce que c'est que, Seigneur qui me parlait, qu'est-ce que c'est que mon baiser ? C'est quoi ? C'est quoi un baiser ? Alors, après un peu de réflexion, j'ai dit, Seigneur, de façon générale, le baiser, c'est de l'affection, c'est de l'amour, c'est de la tendresse, la protection aussi. D'intimité, de confiance, de sécurité, ou encore de passion. Bon, j'ai mis du temps à faire cette réponse. Le Seigneur m'a répondu, oui, tu as bien répondu, c'est pareil pour moi. Tu peux même y rajouter révélation et lumière. Quand je t'embrasse, tu vois un peu plus. Je me révèle un peu plus à toi. Bon, je suis resté un long moment quand même sur ce verset, mais c'est vrai. Si on pense à, par exemple, à Nesrine, bon, elle n'a pas ses petits aujourd'hui avec elle, mais, ou à Shirley avec son bébé, les baisers que ses enfants reçoivent, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça leur produit ? Ça les construit intérieurement ? Ils se sentent aimés, ils grandissent, ils se sentent en sécurité ? On comprend très bien ces images-là. Et le Seigneur veut faire pareil avec nous. Il veut construire ces relations-là avec chacun de nous. Tout ça pour en arriver à « aimez-vous les uns les autres ardemment ». Alors j'ai commencé à un peu mieux comprendre. J'ai dit « Mais Seigneur, c'est vrai, cette femme, elle crie à son amoureux. Je voudrais qu'il m'embrasse. Bon, je comprends bien l'analogie que tu fais. Tu voudrais une relation plus intime que j'ai avec toi, oui. Mais dans le texte, je ne vois pas tellement de baisers pour pouvoir faire une analogie pour moi. Le Seigneur m'a dit, mais tu as mal lu. Relis. Alors je relis. J'avançais guère. Et puis finalement, vous savez, la parole de Dieu, c'est ça. Hein. Il faut y revenir. Hein. Il faut lire, relire, relire encore. Et l'Esprit de Dieu, il voit notre persévérance et il nous récompense. Alors, bon, je les ai comptés, j'en ai vu au moins 15 de baisers, mais il y en a certainement beaucoup plus dans ce chapitre. On va en voir 4. Déjà pas mal. Pourquoi ça marche pas ? Ouais. Ça y est. Le premier que je voudrais voir avec vous, c'est « Le roi m'a introduite dans sa chambre ». Là, il y a écrit « appartement », parce que c'est une transcription, mais littéralement, c'est sa chambre. C'est « cheder ». Si vous regardez, alors là, je parle sous le contrôle de Chantal. « Cheder », c'est « chambre ». Et si vous regardez les strong, les mots strong, pour ceux qui connaissent, chaque fois qu'il y a « cheder », c'est « chambre ». Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire rentrer beaucoup de monde dans votre chambre. Bon, si vous avez un studio, c'est difficile parce que le lit il est peut-être à 50 cm de la cuisine. C'est difficile. Mais dès que vous avez un F2 et plus grand, la chambre elle est fermée, il y a une porte. C'est un endroit d'intimité. C'est un endroit où... d'intimité. Dernièrement, on faisait visiter la maison avec Lilou, avec des amis qui étaient venus manger. Et, voilà, les pièces. Mais la chambre, j'ai ouvert de 20-30 cm. Ça, c'est notre chambre. Je ne les ai pas fait rentrer. C'est comme ça. On est comme ça. Mais là, dans ce verset, le roi, on a chanté le roi tout à l'heure. Le roi, c'est Jésus. Il nous fait rentrer dans sa chambre. Ce n'est pas rien, ça. Il nous fait rentrer dans ses pensées profondes, dans son intimité. Il nous fait rentrer dans la révélation de son cœur. Et tout à l'heure, Vincent lisait l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1. Et je vous suggère de relire à la maison ce chapitre. Et à la place de nous, vous mettez votre prénom. Et là, vous serez dans la chambre du Seigneur. Le roi m'a introduit dans sa chambre. C'est là où on réalise pleinement qui nous sommes et ce qu'il est pour nous. Lorsque vous lisez que vous êtes élu, béni de toute bénédiction spirituelle, que vous êtes saint en Jésus-Christ, que vous êtes irréprochable en Jésus-Christ, que vous êtes agréable dans le bien-aimé qui s'appelle Jésus-Christ, que vous êtes choisi, que vous êtes scellé du Saint-Esprit. Et si vous allez au chapitre 2, que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, vous êtes dans la chambre du roi. Et ça, si ce n'est pas un baiser, alors là, je sens que le Seigneur embrasse plusieurs personnes ce matin. Il leur rappelle qu'il a des pensées vraiment d'intimité avec elles. Ce n'est pas le roi qui est sur son trône bien loin et qu'on voit à 500 mètres, pas du tout. Deuxième baiser. Je suis noire, mais je suis charmante. Là, il y a une révélation. Alors, Paul nous a dit l'autre jour qu'il n'y avait pas de problème de parler de la couleur de sa peau. Nous non plus, on n'a pas de problème. Il y a des personnes qui sont noires parmi nous, elles sont belles et nous les aimons. Ce n'est pas d'une couleur ethnique, le noir du texte. Pas du tout. Donc, on sort ça de notre pensée. Je suis noire. Alors, d'autres versions ont dit bronzée parce qu'elle avait été au soleil. Bon, c'est logique. Mais c'est plutôt spirituellement quelque chose qu'il nous faut comprendre. J'ai mis du temps à le comprendre et je vais vous le livrer. Il y a une grande différence entre les tentes de Kédar et les pavillons de Salomon. Les tentes de Kédar, ce sont des tentes noires qui sont faites avec le poil des chèvres noires que les Bédouins tissaient. Voilà, c'est ça les tentes de Kédar. Et les pavillons de Salomon, c'est des tentures de toutes les couleurs, les plus belles les unes que les autres. Donc on voit le contraste. Eh bien ce contraste, il est en chacun de nous. Je suis noir, c'est l'apôtre Paul qui s'écrit dans son chapitre 7 des Romains. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Je n'en peux plus. Je suis de nature pécheresse. Je suis de nature adamique. Quand le Seigneur te révèle ça, quand toi, il y a une nature qui combat le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit combat par la croix, le Seigneur t'embrasse. Parce que ça te déculpabilise. Parce que ça te montre que ce n'est pas ton vrai toi. C'est ta nature adamique. Mais la nature adamique, lisez Romains 6, Romains 7, Romains 8. Qu'est-ce qu'il en a fait le Seigneur de la nature adamique ? On est bien sur l'adjectif noir. Il l'a crucifié. Et à la place, qu'est-ce qu'il a mis ? Les pavillons de Salomon. Il a mis une nature spirituelle parfaite en Christ. Il a mis le Saint-Esprit. Alors, quand tu réalises qu'en toi, il y a ce combat, la chair contre l'esprit, le Seigneur t'embrasse. Parce que tu vas sortir de tes combats et tu vas dire, j'ai compris. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ça, si ce n'est pas un baiser. Il y en a d'autres, je les saute, parce que quelle heure il est ? J'ai encore un peu de temps. Un autre baiser. Voilà. Est-ce que je vous parle de celui-là ? C'est pas un compliment de c'est pas un compliment de dire à sa femme tu es une jument. Franchement, c'est écrit. Seigneur, explique-moi. Je peux pas dire ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'une jument qu'on attelle au char de Pharaon ? Comprenez bien. Là, on est sérieux. C'est un animal qui a été dressé à la perfection. Parce qu'au char de Pharaon, on ne met pas un étalon. On met un animal qui a été dressé à la perfection, qui, à la moindre pression de la bride sur l'encolure gauche, tourne à droite. Parce que c'est comme ça que ça marche. À la moindre injonction de la voix, peut bondir. Et c'est très utile en cas de guerre. Il faut que le cheval obéisse au doigt et à l'œil. Quand le Seigneur nous dit, allégoriquement, André, je vois bien que là, dans ta façon de réagir, tu es comme une jument qui a été bien dressée. C'est un compliment. C'est quelque chose qui va nous bénir de voir que le Seigneur est sensible au progrès que l'on fait dans sa discipline à notre égard. Au lieu de regimber chaque fois qu'il nous arrive une difficulté, au lieu de crier dès qu'on a un peu mal, ou de « Seigneur, tu sais ce que tu fais. Seigneur, apprends-moi. Seigneur, conduis-moi. » Je n'avais pas prévu de vous le dire, celui-là. Mais ça, c'est un baiser. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Je faisais allusion tout à l'heure. C'est allégorique, évidemment. Alors là, je vais parler sous le contrôle de mon frère Philippe Crémier. Vous ne le connaissez pas, Philippe Crémier. Pas beaucoup le monde le connaît, pas de bruit. Mais alors, c'est un frère que j'aime beaucoup et qui connaît bien les oiseaux. Alors, si vous allez sur Instagram, vous verrez, il fait des clichés magnifiques. Et donc, Peut-être à la fin du culte, il va me dire, André, tu t'es trompé sur les colombes. Mais bon, je vais dire ce que... Bon, je suis allé chez Wikipédia, je ne pense pas me tromper. Bon, d'abord, restons avec Noé. Noé, il a lâché deux oiseaux, un noir et un blanc. Un blanc et un noir. La colombe, c'est le symbole de la pureté. Ça, je ne vous apprends rien. Mais quand le Seigneur te dit, je suis heureux, André, et vous pouvez mettre chacun de vos prénoms, tu regardes avec pureté. Tu fais attention à ce que tu mets sous tes yeux. Le silence se fait là, parce qu'on est tous concernés. On est tous concernés. Tes yeux, que tu es belle, tes yeux sont purs, comme la colombe. Ça, c'est le premier point. Au week-end d'église, j'étais en face d'un frère à un repas, et on discutait à bâton rompu, et on discutait, c'était pas très élevé comme discussion, on discutait de séries, hein, alors de films, de séries. Il me dit, André, tu sais, moi, je suis toujours obligé de zapper. J'aime cette série parce que, franchement, elle m'intéresse, mais voilà, il y a des moments où c'est trop violent, je suis obligé de zapper. C'est une forme de pureté. Nous devons faire attention à ce que nous mettons sous nos yeux. Nous devons zapper quand ce n'est pas bon. Je ne dis pas ça que pour les jeunes. Hein. Nous sommes tous concernés. La colombe a une autre caractéristique. Elle a un œil qui est fixe. C'est-à-dire que ce n'est pas comme nous. Nous, nos yeux, on les monte en haut, on descend en bas, on tourne à gauche, à droite, dans nos orbites. Mais elle, son œil est fixe. C'est-à-dire que pour pouvoir voir deux objets, eh bien, dans un millième de seconde, elle tourne son cou comme ça, pour voir le grain qui est en bas, comme ça. Mais voilà, elle ne regarde qu'un seul objet à la fois. Spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand le Seigneur nous dit « Tu es belle, que tu es belle, tes yeux ne regardent que dans une seule direction à la fois. » C'est beau, ça. Nous, nous partons toujours, je parle pour moi, hein, je fais la leçon à personne, nous partons toujours dans toutes sortes de directions à égalité avec le Seigneur. Mais le Seigneur aime quand on le met en priorité, quand on le regarde lui. Et quand les autres choses perdent de leur importance, perdent de leur force. Et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Et le Seigneur est sensible quand nous mettons vraiment nos regards sur lui en priorité. Troisième point concernant la colombe. Alors quand le couple de la colombe se forme, des colombes, alors je ne sais pas comment on dit une colombe mâle, une colombe femelle, mais quand ce couple se forme, c'est pour la vie. Ça, vous le savez peut-être. C'est-à-dire que le mâle colombe, il n'ira pas avec d'autres colombes. Et pareil pour la femelle. Le couple, il est formé. Et il va jusqu'au bout. Ça s'appelle la fidélité. Alors, vous me voyez venir sur la transposition. Le Seigneur voudrait que nous soyons fidèles à son encontre. Et quand nous le sommes, que tu es belle. Mon ami, que tu es belle. Ça, c'est un baiser. Dans la deuxième église de l'Apocalypse, donc il y a Éphèse, Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire. Sois fidèle jusqu'à la mort. Quand c'est difficile, gardons notre fidélité au Seigneur, coûte que coûte. Fidèle. Dernier baiser. Alors ça, vous allez me dire, où tu le trouves, André, hein, dans ce dernier verset. Hein. Notre lit, c'est la verdure, les solives de nos maisons, ce sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Ben vous savez où je l'ai vu ? Je l'ai vu dans le pronom possessif. Notre lit, notre, nos maisons, nos lambris. C'est plus je. C'est nous. Et je peux vous dire que quand tu te réveilles le matin et que tu dis au Seigneur dans ta prière, « Seigneur, nous allons passer une bonne journée », tu es là-dedans. Si tu vas faire une visite à un frère, à une sœur, « Seigneur, on y va ensemble. » Parce que tout seul, j'y vais pas. Notre maison, nos lambris, notre lit. Bon, c'est, vous allez me dire, c'est, tu joues sur les mots, André. Mais si vous regardez tout le chapitre, elle tourne autour d'elle depuis le début. Elle est perdue, elle dit, « Seigneur, je voudrais me reposer. » Bon, je n'ai pas parlé de ce baiser-là, mais vous pouvez le chercher. « Je voudrais me reposer à midi, je ne sais pas où tu es, etc. » elle est tournée sur elle-même. Mais là, elle a eu une révélation, elle a eu un baiser. Et ce baiser l'a amenée à voir qu'elle n'était pas seule. C'est nous. Et pour ceux qui aiment lire la Bible, je pense aux tous, l'Épître aux Éphésiens, c'est nous. Christ est moi dans la gloire. Je suis en Christ. Mais l'Épître aux Colossiens, c'est Christ avec moi sur la terre. Christ, votre vie. Vous voyez ? Donc, c'est cette unité avec le Seigneur, c'est quelque chose qu'il nous faut chérir. Nous. Eh bien, voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, Vincent m'a demandé de faire la transition avec la Sainte-Seine. Nous allons le faire. En reprenant le résumé un peu de ce que nous avons vu dans ce message, nous sommes dans la roue du Seigneur. Nous sommes à égalité, les uns et les autres. Nous avons, vous avez vu, il n'y a pas un barreau qui est différent de l'autre. Alors c'est vrai qu'il y en a qui partent d'en haut vers le bas. Tiens, je n'ai pas dit ça. Il y en a qui partent du bas vers le haut. Il y en a qui sont sur le côté. Bon, on peut faire une application là-dessus. Hein, qui ont peut-être besoin de descendre un peu de leur piédestal pour trouver le Seigneur un peu plus bas. Ça s'appelle l'humilité. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout confiance en eux et qui sont déprimés, qui sont tout en bas. Ce sont des enfants de Dieu aussi. Et ils ont besoin de reprendre confiance. Et le Seigneur les amène tout près d'eux. Et puis il y a peut-être à gauche ou à droite les indifférents, ceux que la vie roule, la vie tourne. Mais le Seigneur veut les rapprocher aussi. Nous sommes tous concernés par nous approcher du Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire en prenant le repas du Seigneur. Parce qu'en prenant le repas du Seigneur, le pain et le vin, notre amour les uns pour les autres grandit. Nous nous rendons compte que celui qui est assis ou celle qui est assise à côté de nous a les mêmes privilèges que nous, a le même salut que nous, a le même sang qui a été versé pour laver ses péchés. Et du coup, notre amour grandit les uns pour les autres. Alors je vous propose que je vais prier, je vais demander à ceux qui ont été sollicités pour venir distribuer le pain et le vin de s'avancer, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Et je vais prier pendant qu'ils s'approchent. Merci. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Tu nous as parlé d'intimité. Tu nous as parlé d'amour. Tu nous as parlé dans un langage un peu particulier, c'est vrai, mais de tout cet attachement que tu as pour nous et de tout cet attachement que tu voudrais qu'on ait pour toi et qui va se diffuser dans notre amour ardent les uns pour les autres. Seigneur, merci. Merci de nous donner cette dimension de ton Église. Merci de nous donner cette dimension de cette belle relation avec toi. Merci de nous embrasser, Seigneur. Embrasse-nous encore. Embrasse-nous toujours, Seigneur. Que nous ne soyons pas loin de toi. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous ton amour pour que nous puissions être vraiment ancrés dans le moyeu de la roue, Seigneur.